C'est donc une époque dont nous avons vu qu'il est assez difficile d'en donner... Enfin, il y a un problème pour la dater. Part-elle de 2300 avant Jésus-Christ ou de 2100 avant Jésus-Christ, enfin de 2300 ou de 2100. Bon, ça, c'est la date de départ. Bon, on est tout le monde à peu près d'accord pour sa date terminale, qui est 1550, c'est-à-dire l'expulsion des Hyksos d'Égypte. Finalement, on distingue deux grandes époques dans cette période. L'époque du bronze moyen 1, qui va donc, bien justement, on va voir le problème, 2300 ou 2100 jusqu'à 1900 avant Jésus-Christ, et puis l'époque du bronze moyen 2. Cette époque du bronze moyen 2, elle est subdivisée en trois sous-époques, en quelque sorte. L'époque du bronze moyen 2, qui va de 1900 à 1750, c'est grosso modo, si vous le voulez, l'époque des patriarches. Ensuite, époque du bronze moyen 2B. Ça va pas, Gilles? Tu veux que je reprenne?
J'ai perdu les chiffres.
Alors, bronze moyen 1, 2100 ou 2300 avant Jésus-Christ jusqu'à 1900. Bronze moyen 2A, 1900-1750. Bronze moyen 2B, 1750-1650. Et bronze moyen 2C, 1650-1550. Voilà. Bien. Ce qui fait problème, nous l'avons vu, c'est la première de ces périodes, c'est-à-dire la période du bronze moyen 1. Pourquoi fait-elle problème? Parce que, justement, nous avons... dans les documents égyptiens, des grandes imprécisions. Nous avons vu que finalement toute la chronologie est basée sur la chronologie égyptienne. Et là, justement, il y a un hiatus de 200 ans sur lequel la chronologie égyptienne de Manetho est pratiquement muette. Si bien que là, on est un peu dans le brouillard. Et finalement, nous allons voir que seule l'archéologie nous permet de résoudre ce problème. Et pour ne pas vous faire languir, pour ne pas que vous soyez stressé, outre mesure, je vous dis tout de suite que l'archéologie a permis de résoudre le problème et on est arrivé à la conclusion qu'il faut faire en fait partir l'époque du bronze moyen 1 de 2100 et non pas de 2300 avant Jésus-Christ. Voilà, vous voilà rassuré comme ça. Bien, on verra tout à l'heure pourquoi. Pour le moment, il suffit de poser le problème. Bien. L'époque du bronze moyen 1 est une période très particulière, nous allons le voir, dans ce sens que c'est une période qui, dans tout le Moyen-Orient, et aussi sur le plan archéologique, est une période qui est dominée par une population qui est essentiellement une population nomade. C'est vrai pour l'Égypte, c'est vrai pour la Mésopotamie, et c'est vrai pour le pays d'Israël et la Syrie. Finalement, on est arrivé à la conclusion que cette période correspond à ce que l'on appelle la première période intermédiaire par rapport à la chronologie égyptienne, c'est-à-dire l'effondrement de l'ancien empire égyptien, c'est-à-dire l'empire des pyramides en particulier. À partir de la sixième et disons la, oui, là, même on peut dire la septième dynastie d'Égypte, jusqu'à la dixième dynastie, il y a une période d'instabilité. Ça ne veut pas dire que le pays redevient nomade, parce que c'est un pays qui reste développé malgré tout, mais ça veut dire qu'il y a entrée en masse de nomades. Et que cette arrivée de nomades aura un petit peu le même résultat, si vous voulez, que l'arrivée des barbares dans l'Empire romain, à la fin de l'Empire d'Occident, ça veut dire qu'il va y avoir une période de chaos. Une période de chaos qui est aussi illustrée par le fait que, dans une période de temps relativement courte, il y a donc plusieurs dynasties qui se succèdent les unes après les autres. Ça veut dire qu'il y a une instabilité politique dans le pays. En Mésopotamie, c'est la même chose. Nous avons donc un effondrement de l'Empire acadien, de l'Empire suméro-acadien, et une période aussi d'instabilité qui a pour cause aussi l'arrivée en masse de nomades après un affaiblissement du pouvoir central, donc qui était celui de l'Empire acadien. Alors, automatiquement, à partir du moment où les deux principaux empires sont dans une situation de ce type, il est évident que le pays intermédiaire, le pays qui est situé entre ces deux empires, c'est-à-dire le pays d'Israël et la Syrie, automatiquement aussi connaît le même type d'instabilité. Ça, c'est évidemment une conséquence qui est absolument inévitable. Bien, à partir du bronze moyen 2, là, nous avons au contraire l'apparition de nouveaux empires. Justement, pourquoi va-t-on diviser cette période en trois sous-époques, justement, nous l'avons vu, parce que finalement, l'ensemble de cette période fait un tout par rapport à l'Égypte, et c'est grosso modo ce que l'on appellera le moyen empire égyptien. Bronze moyen, moyen empire, vous voyez, on colle vraiment à la chronologie égyptienne. Bon, le moyen empire égyptien, c'est la deuxième époque de splendeur de l'Égypte ancienne, qui est marquée essentiellement par deux grandes dynasties, la 11e et la 12e dynastie. Donc voyez-vous, là, sur toute cette période, on trouve essentiellement deux dynasties, ce qui montre à quel point, par rapport à l'époque précédente, justement, nous avons ici affaire à une période de stabilité. Une période de stabilité de l'Égypte. Et alors, justement, là, nous avons, disons, de 1990 à peu près jusqu'à 1750, un empire très centralisé, très fort, très brillant. Bon. 1750, alors il y a un nouveau problème qui naît. C'est une deuxième période de décadence. Ce qu'on appellera justement la deuxième période intermédiaire, qui est le fait du pays d'Égypte, mais aussi justement de la Mésopotamie. Et là, nous avons le même phénomène qu'à l'époque du bronze moyen 1, c'est-à-dire arrivée en masse de nomades, oui, mais surtout aussi d'Asiatiques. D'Asiatiques, et chose étonnante, qui viennent cette fois-ci d'Anatolie, c'est-à-dire de la Turquie actuelle, et qui vont se répandre dans tout le Moyen-Orient. Ces gens-là vont avoir à leur disposition, nous aurons l'occasion de le voir, des techniques militaires révolutionnaires pour l'époque, de telle sorte qu'ils ne sont pas véritablement des nomades, comme c'était le cas, par exemple, à l'époque du bronze moyen 1, qui se répandaient dans tous ces pays de manière plus ou moins anarchique, un petit peu comme les barbares de la fin de l'Empire romain, comme nous l'avons vu tout à l'heure, donc sans plan véritablement organisé. La deuxième période intermédiaire est marquée par l'arrivée de gens qui viennent pour conquérir ces pays-là et qui, au contraire, ne sont peut-être pas, des peuplades qui sont obligatoirement centralisées, mais qui sont quand même beaucoup mieux organisées que ne l'étaient les Bédouins du désert de la première période intermédiaire. Et ces gens-là vont donc s'emparer de tout le croissant fertile. Depuis, la haute Mésopotamie, à défaut de la basse Mésopotamie, le pays d'Israël et la Syrie, et enfin l'Égypte. Et là, ils mettent fin au Moyen Empire égyptien. Et alors, non seulement ils mettent fin au Moyen Empire égyptien, mais ils vont régner sur l'Égypte, du moins sur la basse Égypte. Il semblerait que les Égyptiens autochtones aient réussi à résister plus ou moins à ces invasions dans la haute Égypte. Mais en tout cas, la basse Égypte, c'est-à-dire l'essentiel de l'Égypte, est tombée entre les mains de ce que les Égyptiens vont appeler des Hyksos, ce qui veut dire dans leur langue, non pas comme on l'a cru pendant longtemps, les rois pasteurs, mais les rois étrangers, les dirigeants étrangers. Ça veut dire que cette période est considérée par les Égyptiens dans leur histoire comme une des pires périodes qu'ils aient jamais vécues. Une période d'asservissement. Une période où ils ont été conquis. Les Égyptiens étaient des gens qui avaient une haute opinion d'eux-mêmes, une haute opinion de leur pays. Ils considéraient que leur pays était le premier pays du monde Et c'est pour eux, ce fut pour eux une humiliation extrêmement importante que justement de passer sous la direction de dirigeants étrangers. Et là, nous allons avoir donc à partir de la 13e dynastie, plusieurs dynasties vont jusqu'à la 17e dynastie, donc 13e à 17e dynastie, les dynasties de rois étrangers qui vont se succéder sur le trône de l'Égypte. Période donc sombre pour l'histoire de l'Égypte, période d'instabilité politique et de tous ordres. Hein. En fin de compte, la Syrie, Israël et l'Égypte forment un même pays, un même empire, sous la direction de ces dirigeants étrangers, même si, semble-t-il, la mainmise de ces gens sur ce qui est les possessions asiatiques de l'Empire est plus ou moins lâche. Mais en tout cas, ils dominent sur les routes principales, ce qui est pour eux la chose essentielle. Et selon certains chercheurs, c'est grosso modo l'époque de Joseph. L'époque où les Israélites vont descendre dans le pays d'Égypte, comme nous aurons l'occasion de le voir. À la fin de cette période, 1550, les Égyptiens autochtones parviennent à reprendre le pouvoir après une lutte terrible. Il faudra des années et des années pour chasser les Hyksos, l'expulsion des Hyksos, et devient véritablement effective vers 1550 avant Jésus-Christ. Et là commence donc, arrive au pouvoir une nouvelle dynastie, la 18e dynastie, qui va créer alors la troisième période de splendeur de l'histoire de l'Égypte, ce qu'on appellera le Nouvel Empire. Le Nouvel Empire qui est bien entendu celui qui est le plus connu, le plus populaire, puisque c'est l'époque des grands pharaons, les Troutmès, les Ramsès, les Merneptah, enfin tout, bon, etc. Donc là, c'est l'Égypte classique, pourrait-on dire, qui naît à cette période. Donc, si vous voulez, voilà grosso modo situer les limites de la période qui nous intéresse. Bien, maintenant, il y a un autre problème qui naît, nous l'avons vu tout à l'heure, qui n'est toujours pas résolu. À quelle date faut-il faire partir le Nouvel Empire, en particulier l'époque du bronze moyen 1. Les deux siècles qui font problème, hein, c'est-à-dire de 2300 à 2100, appartiennent-ils au bronze ancien ou au bronze moyen? Et donc, il existe, on a vu, un hiatus de 200 ans dans les listes égyptiennes, dans les sources. Et finalement, c'est les fouilles qui ont été effectuées dans le sud du pays d'Israël, dans un site qui s'appelle El Adjoul, en arabe, qu'on a trouvé la solution. El Adjoul, qui se trouve non loin de Gaza, donc à côté de le Wadi El Arish, qui est dans la Bible que la Bible appelle le torrent d'Égypte, c'est-à-dire qui était la frontière sud du pays d'Israël. C'est-à-dire que cette frontière allait beaucoup plus au sud que ne va la frontière internationale entre Israël et l'Égypte de nos jours, puisqu'elle dépasse la ville d'El Arish, qui a été occupée par les Israéliens après la guerre des Six Jours et abandonnée en 1982, à la suite des accords entre Sadat et Begin. Et là, donc, se trouve un vaste cimetière. Finalement, El Adjoul, ce n'est rien d'autre qu'un vaste cimetière. Là, il y a un cimetière qui comprend, dans lequel on a trouvé à peu près 1500 tombes, qui s'étend sur des hectares et des hectares. C'est un cimetière qui date essentiellement de l'époque, enfin, qui a été occupé, en tout cas, jusqu'à l'époque des Hyksos, donc jusqu'à la fin de la période. Bon, le cimetière Hyksos est beaucoup plus petit. Et à côté du cimetière Hyksos, on a trouvé donc un autre cimetière avec 1500 tombes dont je parlais tout à l'heure, qui est situé au nord du Tell. Les tombes en question sont très particulières. Ce ne sont pas des tombes naturelles. Vous savez, on l'a dit la dernière fois, qu'à l'époque précédente, on enterrait essentiellement dans des grottes. Des grottes naturelles, on était d'ailleurs parfois amené à les aménager un peu pour ce faire. Grottes qui pouvaient d'ailleurs, au bout d'un temps, d'ailleurs, être récupérées pour servir de lieu d'habitation. Mais ou alors qui retournaient ensuite après à l'état de cimetière. Bon, par exemple, on sait que les patriarches ont été enterrés dans une grotte, la fameuse grotte de Macpéla. Bon, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, puisque justement, c'est quelque chose qui se situe à cette période. À El Hadjoul, nous avons à l'époque donc ancienne, la première période, donc les 1500 tombes, et non pas au cimetière Hyksos qui est plus au sud, nous avons donc des tombes qui sont des tombes artificielles, qui sont des puits verticaux, creusés donc dans le sol. Et en bas du puits s'ouvre une chambre sépulcrale. Si vous voulez, grosso modo, ça fait voilà, le plan à peu près d'une de ces tombes. Donc, ici, nous avons le sol vierge. Alors, on a ici un puits, un puits vertical. Et puis, ici, donc, on a une chambre sépulcrale. Et là, donc, on a de la place pour un seul corps. Hein. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui tranche avec les époques précédentes, parce que les époques précédentes, les sépultures étaient des sépultures collectives. Tandis que ici, nous avons des sépultures individuelles. Ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel à la période qui nous... Enfin, à partir de... Dans l'histoire, si vous voulez, à partir de cette période-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant l'essentiel de la période du bronze moyen 1, l'essentiel des sépultures qu'on va trouver non seulement à El Hadjoul, mais dans un peu partout dans le pays d'Israël, seront des sépultures de ce type. Seront des sépultures individuelles. Et c'est là, justement, que l'histoire des patriarches est une exception. L'histoire des patriarches, qui se situe à cette période-là, et la sépulture des patriarches dans la caverne de Macpéla, donc ici, première chose, dans une caverne. Deuxième chose, sépulture collective, reprend, si vous voulez, plutôt les traditions de l'époque précédente, c'est-à-dire du bronze ancien, plutôt que de se soumettre aux coutumes de l'époque, si j'ose dire. Hein. Bon, ça, c'est à noter en passant, bon, sans qu'on puisse absolument l'expliquer. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, bien sûr, comme c'est toujours le cas, des offrandes qui sont faites aux morts dans la sépulture, et on trouve, bien sûr, des poteries, ça c'est classique, mais on trouve aussi des armes. Quand il s'agit des armes de bronze, quand il s'agit d'un homme, des bijoux ou bien des aiguilles en os pour la couture, des palettes à parfum, des choses comme ça, en ivoire, par exemple, pour ce qui concerne les sépultures de femmes. Donc on sait, si on a affaire à un individu de sexe masculin ou de sexe féminin, Au vu des offrandes qu'on trouve justement dans ces puits. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la poterie justement qu'on trouve à El Hadjoul est une poterie tout à fait nouvelle. C'est une poterie qui n'existait pas à l'époque précédente. Cette poterie, les archéologues lui donnent un nom, c'est celui de poterie caliciforme. Parce que justement, comme son nom l'indique, c'est une poterie qui a des formes de calice. Elle est typique de cette période. Et on trouve aussi, au niveau des armes, des choses intéressantes. On trouve des dagues, par exemple, et notamment, c'est le cas dans la région de Jéricho. Jéricho, nous allons voir dans un instant, on trouve des tombes de ce type-là. Dans lesquels on trouve justement, pratiquement dans chaque tombe, des épées de bronze. D'où justement le nom que leur a donné Miss Kenyon, qui a été celle qui a fouillé la région, qui s'appelle Dagger Tombs. Hein, épée en anglais, les tombes de l'épée. Hein, parce que dans chaque tombe, il y a justement des épées de bronze. Maintenant, il n'y a pas seulement des épées de bronze dans ces tombes, mais il y a aussi des haches. Bon, nous avons vu le développement de la hache à l'époque précédente, et notamment justement la hache epsilon, comme on l'avait appelée, hein, parce qu'elle a grosso la forme d'epsilon. Et là, on trouve un nouveau développement de la hache epsilon, qui est très intéressant. Voilà comment se présentent maintenant les nouvelles haches qu'on trouve dans ces tombes. Voilà. Donc ça, c'est des trous, hein, c'est trouvé là. Alors, bon... C'est évidemment la partie métallique,
Et on mettait évidemment un morceau de bois ici pour lequel on a fixé. Hein. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que on voit qu'ici c'est une évolution de l'âge epsilon. Et bon, il y a un autre nom qu'on le donne aussi, on l'appelle Garzen et Naim, H à yeux. Ça ressemble à des yeux, en quelque sorte, un petit peu, quoi, hein, ces trous qu'il y a dans le métal. Très intéressant, on aura l'occasion de le revoir, qu'on trouve sur des bas-reliefs égyptiens, dans des tombes qui sont dans la région de Beni Hassan, en Égypte, on trouve des dessins, justement, qui représentent des Asiatiques qui sont armés de ce type de hache. La hache à yeux, il est probable que ça, c'était un type d'arme qui était contemporain, justement, de l'époque d'Abraham. Bon. Maintenant, justement, on trouve aussi, au point de vue poterie, alors, pour la première fois, l'apparition de la lampe à huile. Alors, la lampe à huile, à cette période-là, elle est finalement très simple. Au départ, c'est tout simplement Bon, on en trouve, justement, on en trouve plusieurs modèles. On en trouve, par exemple, si on la regarde de dessus, ça fera à peu près ça. Alors ici on a comme ça. Hein. Si on la regarde sur le côté, ça fera ça quoi. Ça fait comme ça. Alors ça remonte un peu ici comme ça, quand on regarde sur le côté. Voilà. Alors, ça, si vous voulez, ça se referme un peu. Donc, si vous voulez, ici, on peut mettre une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches. On met de l'huile dedans, dans le réservoir. Donc, vous avez ici deux mèches qui sortent comme ça. Donc, ça éclaire. Bon, vous voyez que ça éclaire quand même relativement. Ça, c'est la lampe là, qui donnait le plus de lumière. Alors, remarquez ici la forme de cette lampe, d'où justement le nom de poterie caliciforme. Vous voyez que ça a la forme de calice. Toute la poterie de cette période-là, toute la poterie qu'on trouve dans ces tombes, est de cette forme caliciforme. Bon. Il y a une lampe plus simple qu'on trouve, qui est tout simplement... je peux effacer ? Oui ? Il y a une lampe plus simple qu'on trouve à cette période-là, qui est tout simplement, si vous voulez, un morceau d'argile que l'on a refermé comme ça, si vous voulez. Donc ici, voilà, on met juste une mèche qu'on allume. C'est-à-dire, vu de haut, ça donne ça, quoi. C'est-à-dire ici, on a refermé l'argile, si vous voulez, comme ça, quoi. Tout à fait simple. Donc on met la mèche ici, voilà. Bon. Et après, donc, on a une autre forme, alors un peu plus évoluée, qui vous donnerait à peu près ça. J'en ai une comme ça d'ailleurs chez moi, qui date de cette période. Donc, même type, si vous voulez, mais alors un peu plus élaboré déjà. Hein? Donc, c'est le même type de lampe. On voit que c'est des lampes encore très frustes. Qu'est-ce qui se passe à part Oui, ben, va, rapidement, oui. N'attends pas. C'est de constater que ce type de poterie caliciforme se retrouve par exemple en Transjordanie, se retrouve dans les déserts. Ce qui est la preuve, n'est-ce pas, que nous avons affaire ici à une culture qui est d'origine nomade. Donc nous avons ici, partout où nous trouvons cette culture, cette poterie caliciforme, nous avons apparition d'une population nomade, d'une population qui vient des déserts. Bon. Par synchronisme, on arrive à dater cette poterie et on sait que son départ, son point d'origine, à partir de ce qu'on trouve à El Adjoul, c'est 2100 avant Jésus-Christ. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut faire partir l'époque du bronze moyen 1
de 2100 avant Jésus-Christ et non pas de 2300 avant Jésus-Christ. Bon, on retrouve le même type de poterie en Mésopotamie, hein, parce que justement, là, nous avons toute une civilisation du désert qui avait certainement des liens très larges. Par exemple, à El Adjoul, c'est évident que c'est un cimetière nomade. Un cimetière de nomades. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas à proximité d'installations, comment dirais-je, de sédentaires. Quoi. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, d'établissement agricole. Finalement, les Bédouins nomadisaient dans toutes ces régions-là et ils se rassemblaient uniquement pour enterrer leurs morts. Les morts étaient enterrés au même endroit, c'est tout. La seule, finalement. On a un petit peu là ce qu'on a aussi dans l'histoire d'Abraham, quoi. Hein. Abraham était un nomade et finalement il n'achète de terre que pour la mort, pour la sépulture, hein, pour sa sépulture et celle de ses descendants. Donc il y a toute une tradition de sépulture qui a commencé à El Adjoul depuis le début de l'arrivée de ces bédouins dans la région, c'est-à-dire depuis l'effondrement d'Égypte qui contrôlait cette région-là. Jusqu'à l'époque Christos, jusqu'à la fin de l'époque Christos, on a continué à enterrer dans ce cimetière d'une manière absolument ininterrompue pendant toute la période du bronze moyen 2. Du bronze moyen en général. 1 et 2, justement. Et là, donc, on sait maintenant, grâce à ce cimetière, qu'il y avait différentes tribus. Différentes tribus parce que les types d'armes, d'une part, et d'autre part, les types de poterie diffèrent d'un groupe à l'autre. D'un groupe de tombes à l'autre. Et c'est très intéressant de constater que les tombes sont groupées, justement, par ethnie. Des tombes qui sont proches géographiquement les unes des autres ont le même type d'objet, finalement. Et puis, dans un autre, on passe à quelques tombes plus loin et on trouve un autre groupe de tombes avec des objets différents. Donc nous avons ici manifestement différentes tribus qui avaient beaucoup en commun, mais qui avaient aussi les unes par rapport aux autres un certain nombre de différences. Donc nous sommes ici vraiment dans une structure nomade. Et alors justement, ce cimetière va durer jusqu'à l'époque où il va y avoir justement apparition de nouveaux occupants, d'une nouvelle civilisation qui apporte justement des poteries, alors là, un peu différentes à partir du bronze moyen 2, ce qui montre que là, nous avons une sédentarisation qui se produit. Une sédentarisation qui se produit dans toute la région. Bon. Alors évidemment, il y avait coexistence pendant toute la période de nomades et de sédentaires, mais finalement, ce qui se passe à partir du bronze moyen 2, c'est que les sédentaires deviennent l'élément dominant, alors qu'à l'époque du bronze moyen 1, l'élément dominant, c'est évidemment la culture bédouine. Voilà. Donc ici, voilà une énigme résolue. Et nous arrivons aussi à un autre endroit qui est très important aussi pour cette période-là, c'est le site de Tel Beth Mirsim. Tel Beth Mirsim, c'est aussi situé non loin d'El Adjoul, dans le sud d'Israël. Et on retrouve aussi là des cimetières avec ce même type de poterie caliciforme qui manifeste l'arrivée de nouveaux immigrants. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve aussi dans le cimetière de Tel Beth Mirsim des poteries qui sont semblables à celles qu'on trouve à Lachish, à la même période, c'est-à-dire vers 2000 à peu près, 2000 avant Jésus-Christ, et aussi des poteries qui sont celles que l'on trouve à Jéricho. Ce qui prouve qu'il y a eu là des populations non seulement qui sont venues du désert, mais également des populations qui sont venues du nord et qui ont nomadisé, en tout cas, dans cette région-là. C'est là qu'on trouve aussi des dagger tombs, comme celle de Jéricho dont nous parlions tout à l'heure. Et donc le professeur Albright, le professeur Nelson Gluck, le professeur Mazar ont mis ces populations en relation avec ce que nous avons évoqué ensemble la dernière fois, c'est-à-dire la vague des Amoréens. Ces populations nomades qui sont venues des déserts et que les Égyptiens ont appelé gens d'Amourou, ça veut dire les Sémites de l'Ouest, par opposition aux Araméens, qui étaient les Sémites de l'Est. Ça veut dire ceux qui ont habité dans la basse Mésopotamie, tandis que les Amoréens ont essentiellement leur centre en haute Mésopotamie, ce qui deviendra plus tard la Syrie, ce qui est aujourd'hui la région de Mossoul. Ces gens-là se sont aussi établis, pour les mêmes raisons, parce qu'on trouve aussi le même type de tombe et le même type de poterie caliciforme, sur les villes de la côte. Ça veut dire depuis Gaza jusqu'à Tyr, Arvad, Gval, enfin bref, toutes les villes de la Phénicie. Bon, c'est évident que c'était des endroits où la vie était plus facile qu'ailleurs, et bien sûr, c'était des endroits où ces populations avaient le plus envie de s'établir, et comme, justement, il n'y avait rien en face d'eux, il n'y avait pas d'opposition, eh bien, ils ont pu s'établir dans cette région sans aucune difficulté. Maintenant, cet établissement de la côte leur permettait deux choses. Premièrement, de contrôler le commerce maritime entre l'Égypte et la côte phénicienne en particulier, c'est la région du Liban, qui avait été l'apanage de l'ancien empire, voire éventuellement, peut-être aussi, on ne sait pas trop jusqu'à quel point, parce qu'on n'a pas tellement d'autres données pour le préciser, mais peut-être aussi de prendre le contrôle du commerce égyptien de l'ancien empire en Méditerranée, en tout cas entre l'Égypte et la Phénicie, certainement. Et puis, deuxièmement aussi, de contrôler le commerce terrestre qui passait le long de la plaine côtière, quoi. Donc là, nous avons une nouvelle donne, tout à fait révolutionnaire pour cette période-là. Maintenant, il y a aussi d'autres tombes qu'on appelle « tomb potteries », et qui sont alors là ainsi nommées parce qu'il y a un très très grand nombre de poteries. Ces poteries qui aussi sont différentes selon les différentes tribus auxquelles appartenaient ces gens-là. Donc on trouve à peu près la même structure que celle qu'on a à El Adjoul devenant en quelque sorte l'image de tout le pays d'Israël, le microcosme du pays d'Israël pendant toute cette période. À Megiddo, donc au nord cette fois-ci. Comment se présentent les choses? Alors là, on a à l'est du Tell aussi le même type de tombe. Le même type de tombe, en nombre moindre d'ailleurs que dans le sud. Par exemple, pour l'heure, on a retrouvé dans cette région qu'une dizaine de tombes, en fait. Et c'est à l'inverse de ce qui se passe à El Adjoul d'autres, ces tombes sont creusées dans la roche. C'est beaucoup plus difficile, bien entendu, mais c'est aussi, qu'est-ce qu'on va dire, plus chic, je ne sais pas. Donc, en tout cas, il y a plus de chances que ça résiste au temps aussi. Dans le Negev, dans certaines régions du Sinaï, on trouve aussi ce même type de poterie caliciforme, et on trouve aussi à proximité des restes de campements de Bédouins, ce qui est une confirmation supplémentaire que l'on a vraiment affaire à une population nomade. Il y a donc une civilisation tout à fait particulière qui apparaît à cette période-là, qui ne nous a pas laissé d'autres traces matérielles que essentiellement des tombeaux. Alors, bon, c'est très difficile à cause de cela, pendant toute cette période, de classer chronologiquement les différents types de poteries qu'on a trouvées. Parce que, bien sûr, dans la mesure où on ne les trouve que dans des tombeaux, les tombeaux, il n'y a pas de stratigraphie possible. Il n'y a pas de possibilité de faire de comparaison avec d'autres sites qui auraient été datés avec plus de précision, de telle sorte que là, on est un petit peu dans une période qui se caractérise par un flou. Bon. Alors, on a aussi, à la fin de la période, une autre évolution de la hache aïeux que nous avons vue tout à l'heure, qui se caractérise par le fait que les yeux sont beaucoup plus petits. Bon, je suis ici le dimanche. C'est le tranchant, bien sûr, tout ça c'était tranchant, évidemment. Et là c'était troué. C'était troué. Pourquoi ? finalement, c'est pas tellement. Et puis, alors, on a l'apparition de Dag, d'où le nom, justement, de Dagger Tombs, qui sont à peu près semblables à celles qu'on trouvait à l'époque précédente. Et puis aussi des javelots, des têtes de flèches en métal, pour la première fois. Des javelots, des lances, des objets de ce type-là. À Jéricho, alors à Jéricho, là, c'est quelque chose de tout à fait particulier. À Jéricho, nous avons, à cette époque du bronze moyen, la couche 2. La couche 2, qui est une ville. C'est assez rare, finalement, dans cette période, qu'on trouve des villes. Et Jéricho est une des rares villes qui reste peuplée à cette période-là. On y trouve une muraille, des bâtiments divers, dont des entrepôts, des magasins, qui sont soutenus par des colonnes rondes assez sophistiquées. Et puis alors on trouve dans cette Jéricho-là le même type de poterie et le même type de tombe que celui qu'on trouve dans les tombes de la même époque. Alors, ça nous amène à conclure deux choses. Que Jéricho a été conquise par cette population à cette période, mais qu'un certain nombre de ces gens-là se sont sédentarisés, ou peut-être ont vécu en symbiose avec la population précédente qui avait été vaincue. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve des ateliers de forge, où, justement, étaient forgées ces armes de bronze dont nous avons parlé. Il y a aussi des ateliers de poterie, où étaient fabriquées aussi les poteries. Donc Jéricho semble avoir été, à cette période, un centre important de cette civilisation-là, où coexistaient des nomades et des sédentaires. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve à proximité de Jéricho, aussi, un certain nombre de tombes. De tombes, de même type, des tombes en forme de puits, dans lesquelles on trouve des armes qui, manifestement, n'ont pas été forgées dans les ateliers qu'on a retrouvés à Jéricho. Ça veut dire que les nomades forgeaient eux-mêmes leurs propres armes et que les armes qui étaient forgées sur place à Jéricho, servaient pour les habitants de la ville. Quelles étaient les relations entre les différents groupes nomades et les groupes de sédentaires à Jéricho? Et pourtant, il y avait on sait qu'il y avait aussi des nomades à Jéricho qui passaient, qui, peut-être pour un temps plus ou moins long, qui commerçaient, etc. Bon, enfin, c'est assez difficile de dire. Maintenant, ce qui est aussi intéressant à Jéricho, c'est que nous avons non seulement, alors là, les tombes individuelles semblables à celles qu'on trouve à Tel el-Adjoud ou à Tel el-Mirsim, mais on trouve aussi alors des tombes collectives. Et notamment, justement, des tombes sous forme de tumulus, un peu comme celles qu'on a ici dans notre région. Il est probable, n'est-ce pas, qu'à l'époque chalcolithique, les populations de nos régions, les populations mégalithiques, étaient en relation avec les civilisations du même type au Moyen-Orient, et que justement, pendant l'époque du bronze moyen, jusqu'à l'époque du bronze ancien, jusqu'à l'époque du bronze moyen, un certain nombre de traditions qui remontent à l'époque chalcolithique, qu'on appelle ici en Bretagne mégalithique, se sont poursuivies, notamment justement le type de sépulture collective dans des tumulus. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se demander justement quelle était l'origine, quelle était la nature de ces populations qui ont été enterrées justement dans ces tombes. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter qu'il y a des relations entre Jéricho et l'Égypte à cette période-là. Et des relations donc avec l'Égypte importantes, à la fois commerciales et culturelles, qui se sont manifestées notamment à l'époque de la 8e dynastie égyptienne, ça veut dire justement pendant toute cette période, dite période, première période intermédiaire. Et le fait que l'on trouve justement ce type d'objet dans ces tombes de Jéricho nous amène aussi une nouvelle preuve qu'il nous faut faire partir le début de la période, non pas de 2300, mais de 2100 avant Jésus-Christ, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, justement, le problème qui se pose, c'est celui de savoir quel synchronisme on peut faire entre cette période-là et puis la première période des patriarches. Les patriarches nous sont présentés comme des nomades, des gens qui quittent la Mésopotamie, c'est-à-dire le pays des Sémites de l'Est, et qui se mettent en route vers Haran, c'est-à-dire vers l'ouest, hein, l'ouest de la Mésopotamie, et de là vers le pays de Canaan, y compris justement en Égypte. Abraham descend en Égypte, comme le font un certain nombre de nomades de cette période-là. Et je vous citais tout à l'heure justement les tombes de Beni Hassan en Égypte, qui datent de la fin de la période, voire le début de la période suivante, c'est-à-dire du début du Moyen-Empire, grosso modo. Et là, nous avons une scène très intéressante qui est peinte sur le bas-relief de la tombe, où nous voyons justement une caravane d'Asiatiques, de Bédouins asiatiques, de nomades, qui vient se réfugier en Égypte. Et qui vient se réfugier en Égypte à une période de famine. Et alors, bon, les Égyptiens nous sont représentés d'une manière tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire glabres, vêtus d'un pagne, avec une peau foncée, hein, comme on le voit, puisque c'est peint encore en couleur. Donc là, on a une photo couleur, si j'ose dire. Vous voyez, les Égyptiens étaient très en avance sur leur temps. Et, par contre, les Asiatiques sont présentés vêtus de longues robes, avec une peau claire, et puis des longs cheveux. Des longs cheveux et des barbes, que n'ont pas les Égyptiens. Ils sont accompagnés de leur famille, les femmes et les enfants, qui les suivent avec des animaux de bas, notamment des ânes. Le chameau, à cette période-là, était assez rare, était un objet de luxe que beaucoup de gens ne pouvaient pas se payer, ce qui montre à quel point, d'ailleurs, le fait qu'Abraham ait pu disposer de 10 chameaux pour mettre à la disposition de son serviteur montre à quel point Abraham avait réussi et était aisé. Bien. Donc on voit essentiellement des ânes. Et outre les personnages en question, on voit un certain nombre de guerriers asiatiques qui ont entre les mains les deux types de haches dont nous avons parlé tout à l'heure. La hache aïeux, de grands avec les grands yeux et puis les petits yeux, en quelque sorte, j'ose dire. Hein. Donc ici, nous avons aussi un synchronisme qui nous montre que ces armes-là étaient en service à la période qui nous intéresse. Et alors, justement, l'idée de base, c'est que la période du bronze moyen 1, du moins la fin de la période, ou plutôt la période transitoire entre le bronze moyen 1 et le bronze moyen 2, ça veut dire le bronze moyen 2A, hein, et la période des anciens patriarches, ça veut dire d'Abraham. Hein. La période du bronze moyen 2A sera la période d'Isaac et de Jacob, essentiellement. Bon. Il y a un autre élément tout à fait intéressant aussi qu'on trouve à cette période. C'est ce que l'on appelle les textes d'exécration égyptiens. Les textes d'exécration égyptiens sont un ensemble de petites statuettes de cette dimension à peu près, ou qui représentent un personnage asiatique, parce qu'il est barbu et chevelu, hein, tandis que les Égyptiens avaient été glabres et avaient les cheveux coupés. Et alors, la poitrine de la statuette est en quelque sorte une espèce de plaque sur laquelle il y a des inscriptions. Le personnage est représenté assis, et ils sont tous semblables. Hein. Et chaque personnage représente une tribu. Une tribu qui a fait alliance avec le pharaon. Et les termes de cette alliance, une alliance de vassalage, ça veut dire que les cheiks de ces tribus, les chefs de ces tribus, se sont reconnus comme étant soumis au pharaon et par conséquent doivent lui payer tribut. Enfin, il y a un certain nombre d'obligations qui sont définies dans le contrat. Et le contrat, notamment, se termine par ceci. C'est que si les membres de la tribu ne respectent pas scrupuleusement tous les engagements qu'ils ont souscrits, alors des malédictions épouvantables vont venir sur eux. Et les dieux sont pris à témoin de la conclusion de ce contrat. Les dieux des deux parties, les dieux égyptiens d'une part, et les dieux de ces populations d'autre part. Et il est dit ceci, « Je reconnais que si je ne respecte pas scrupuleusement tout ce qui a été, alors les malédictions suivantes me seront envoyées par ces dieux qui sont les témoins de ce contrat. » Alors, des plaies, des maladies, la mortalité du bétail, la famine, enfin tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Et le pharaon gardait précieusement chez lui ses statuettes, qui représentaient chacun une tribu. Tribu nomade. Et le jour où la tribu en question se révoltait, ou bien ne respectait pas, ou cessait de payer tribu, ce qui était d'ailleurs un signe d'une révolte, alors le pharaon brisait la statuette, il l'a jetée par terre, il l'a brisée. Et toutes les malédictions qui étaient écrites sur la statuette s'abattaient sur la tribu en question. C'est ce qu'on appelle les textes d'exécration. Bon. Il y a dans deux séries de textes d'exécration. Mais la première série, c'est celle qui nous intéresse pour le moment. On aura l'occasion de parler de la deuxième plus tard. Et contrairement à la deuxième série des textes d'exécration, essentiellement représentés par des tribus nomades. Par contre, deux siècles plus tard, les textes d'exécration de la deuxième série concernent des villes, les villes qui sont expressément nommées, dont, entre autres choses, la ville de Jérusalem, ou Roussalim, ça s'appelle à cette période. Et ça nous montre quoi ? Que sur l'espace de deux ou trois siècles, il y a eu, pour le pays de Canaan, donc une évolution, cette population est devenue une population essentiellement urbaine. Donc il y a eu ici une modification extrêmement importante. Bien. Et alors justement, c'est une nouvelle confirmation que à cette période, nous avons affaire à une population essentiellement nomade, dans laquelle, évidemment, peut s'inscrire d'une manière tout à fait compréhensible l'histoire d'Abraham. D'autre part, le fait que, justement, il y ait peu de villes à cette période-là montre que nous vivons dans une période de paix relative. Je dis de paix relative, puisque ces groupes sont armés, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais, en tout cas, ils circulent. Ils circulent et que, finalement, on peut dire que l'Égypte, même l'Égypte décadente, comme c'est le cas à la période qui nous intéresse, réussit à maintenir un certain ordre. Et ce sera encore plus le cas, évidemment, à l'époque du bronze moyen de A, où alors là, la 18e dynastie, la 11e dynastie va prendre tout ça d'une main de fer. Bon. Et là, donc, il y a des échanges possibles, il y a une paix possible. Et cette paix est évidemment absolument indispensable pour le contexte de récit des patriarches tel qu'on le trouve justement dans la Bible, où effectivement Abraham peut vivre d'une manière relativement pacifique. Il peut voyager, il peut se déplacer sans qu'il y ait de gros problèmes pour lui. De temps en temps, bien sûr, il y a des rizous. Ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est typique chez les Bédouins jusqu'à nos jours. Ça n'a pas changé. Hein. Et là, bon, ben, en bon Bédouin qu'il est, éventuellement, Abraham aussi fera le rizou. Et notamment lorsque les cinq rois du Nord sont venus pour enlever son neveu Lot et les habitants de Sodome. Abraham arme 300 de ses hommes, ce qui est à peu près l'effectif normal pour un rezou, un rezou de grande importance, bien sûr. Mais pour un rezou, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? Ça va pas mieux ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Abraham monte un réseau de grande importance et il parvient donc à récupérer non seulement les personnes, mais également les biens, ce qui est aussi le but du réseau. Le réseau, c'est non seulement de s'emparer des biens, mais également de s'emparer des personnes qu'on vend comme esclaves. Hein. Ça, c'est un commerce florissant aussi à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Bon. Donc, toute la geste d'Abraham se comprend parfaitement dans toute cette situation-là. Nous aurons l'occasion de voir qu'à la fin de la période, justement, tout change. Et que après cette période de paix, s'instaure une période au contraire de grands troubles qui amène les populations à se sédentariser et à se protéger dans des villes. Il ne faut pas oublier que l'urbanisation, à l'époque qui nous intéresse, a essentiellement pour raison l'insécurité. La ville a d'abord une fonction militaire. Une ville, c'est une entité qui est protégée par des murailles. Bon, éventuellement, à partir de cette ville, c'est une ville à ce que la Bible appelle des filles. Hein, vous lisez ça dans le... Toi aussi, tu te sens mal? On t'excuse, va. Une ville a des filles, ce que la Bible appelle des filles. Ça veut dire des villages, disons, des villages agricoles ou artisanaux, pas, ou même des centres qui sont des caravansérails pour les bédouins. Mais ces bédouins ou ces semi-nomades, c'est là une espèce de... Les filles des villes, ce sont des entités où sont peuplées des semi-nomades. Ces semi-nomades, en cas de problème, viennent se réfugier dans la ville, comme par exemple les serfs au Moyen-Âge le faisaient dans le château fort du seigneur. C'est à peu près la même structure, hein, et les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. L'insécurité. Donc, à la période qui nous intéresse, c'est une période, au contraire, de sécurité. La période suivante sera une période d'insécurité et une période qui va voir donc un changement total, justement, de la physionomie du pays de Canaan, du pays d'Israël, donc à ce moment-là. Bon, voilà, si vous voulez, donc, c'est toute cette période qui est une période de grands bouleversements, de grandes transformations. Et la population cananéenne, ce qu'on va appeler la population cananéenne, on a vu ça la dernière fois, va être le résultat, justement, de cette arrivée, ce melting pot, hein, où se mêlent des populations qui étaient sédentaires avant la venue des Amoréens, les Amoréens eux-mêmes, des Égyptiens, qui sont venus s'installer là à l'époque de l'Ancien Empire et puis qui, au moment de la décadence, sont restés sur place, des populations qui sont venues d'Anatolie, des populations qui sont venues de Grèce. Car déjà à cette période, nous avons des populations qui viennent de Grèce et des îles de l'Égée. Bon, c'est la période aussi où la Crète entre en décadence. C'est la période aussi où nous avons des poussées de populations qui sont venues du nord et qui font que des groupes du continent viennent en direction de l'est et du sud. Et notamment, dans les récits des patriarches, le livre de la Genèse évoque la présence de Philistins dans la région de Grar en particulier, ça veut dire la région de Gaza actuelle. Bon. Les Philistins sont une population qu'on a maintenant répertoriée d'une manière très précise, de manière archéologique. C'est notamment une professeure, Madame Trouda Dotan, qui est une grande spécialiste des Philistins. Et Madame Trouda Dotan a situé l'arrivée des Philistins, j'ai l'occasion d'y revenir, au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, des siècles après la période qui nous intéresse. Tant et si bien que même quelqu'un comme professeur Mazar, professeur Albright aussi, était arrivé à la conclusion que la mention de Philistins dans le livre de la Genèse, à l'époque, d'une part d'Abraham, d'autre part d'Isaac, est un anachronisme. Il est vrai que les Philistins officiels, ça veut dire les Philistins du XIIe siècle, se sont installés justement dans la même région, tant et si bien qu'on peut croire qu'il y a anachronisme. C'est un de ces mythes, une de ces légendes que tous les critiques de la Bible nous rabattent les oreilles, comme le fait actuellement Le Point dans le dossier qu'il consacre cette semaine à la Bible. En fait, des recherches récentes ont démontré que ce que la Bible appelle les Philistins, c'est tout simplement des Grecs. Des Grecs, parce que les Philistins, finalement, sont venus de Grèce. L'origine des Philistins, c'était la Grèce. La Grèce et les îles de l'Égée. Et finalement, la Bible connaît tous ces gens-là jusqu'à l'apparition des Grecs officiels, c'est-à-dire jusqu'à l'époque perse, où là, le peuple d'Israël va entrer en relation avec la Grèce classique, disons. Mais la Grèce préclassique, la Bible, les textes anciens de la Bible, la connaît comme pays des Philistins. Par conséquent, les Grecs qui sont venus à l'époque qui nous intéresse, dans cette grande première période intermédiaire qui intéresse le Moyen-Orient, eh bien, pour la Bible et pour les habitants de l'époque, ce sont les Philistins. Bien. Alors, nous n'avons pas du tout affaire ici à un anachronisme, mais effectivement, on a trouvé, alors un peu partout, sur les côtes en particulier, des traces d'implantations grecques, de poteries grecques, d'inscriptions grecques anciennes, et de traces de relations commerciales, justement, entre les villes de la côte et les Amoréens qui étaient venus s'y établir, et puis, justement, les îles de l'Égée, Chypre, la Crète, et même la Grèce continentale. Hein ? Il y avait un trafic qui se faisait jusque-là. Donc, population ici extrêmement mélangée, puis aussi population d'Anatolie, qui va ensuite se concrétiser de deux manières. D'une part, avec la création des empires hittites, et puis ensuite l'arrivée des Hyksos. Les Hyksos qui viennent justement d'Anatolie. Donc, qui sont eux des Indo-Européens, qui sont donc des Blancs. Et alors, nous avons ici l'origine de ce que la Bible nous présente comme étant la population du pays de Canaan, au moment où, d'une part, les patriarches s'y installent, mais qui sera aussi le tableau que trouveront les Israélites au moment de la conquête à l'époque de Josué, ça veut dire une région qui est un véritable melting pot dans lequel toutes les ethnies du monde se rencontrent. Il n'y a pas de véritable population canadienne. Hein. Ce qu'on appelle la population canadienne, c'est le mélange, en quelque sorte, de ces populations d'origine très diverses qui viennent aussi bien des confins du désert d'Arabie, de Mésopotamie, d'Égypte et d'Afrique, d'Éthiopie. Il est question de Kouchim. C'était pendant la dernière ronde jeune, on me disait, bon, il y a des Kouchim, c'est-à-dire des Africains, des gens qui ont la peau noire dans le pays de Canaan, à cette période-là, comme on est en Égypte, d'Europe, par l'intermédiaire de la Grèce, d'Anatolie, d'Iran. Hein, les Hyksos aussi avaient des origines en Iran, dans tous ces pays-là. Et tout ce monde-là se retrouve dans le petit pays de Canaan, où il forme justement la population cananéenne. Et la Bible évoque justement cette extraordinaire diversité ethnique de la population cananéenne quand elle nous parle des sept peuples de Canaan. Bon, sept, c'est pas à prendre, évidemment, c'est pas un chiffre qui est à prendre au sens direct du terme. Sept, ça veut dire un grand nombre. Toutes les populations du monde se retrouvent sur le sol de Canaan. Et les sept peuples de Canaan, la liste des sept peuples de Canaan varie selon les différents textes de la Bible. Hein. Mais ça nous montre l'extraordinaire diversité. Et un peuple qui est souvent cité, c'est justement le peuple hittite. Donc c'est en relation avec les Hyksos et tous ces gens-là. Donc ici nous avons cette extraordinaire diversité du pays de Canaan, de la population cananéenne, qui va être une des marques du pays jusqu'à l'arrivée des Israélites sous la conduite de Josué, peuplades qui ensuite, après la conquête, seront plutôt chassées qu'exterminées d'ailleurs, ou alors un certain nombre d'autres s'assimileront au sein du peuple d'Israël et finiront par être considérés comme partie intégrante du peuple d'Israël. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire de l'époque du bronze moyen 1 pour l'heure. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?
Le problème des Chaldéens à l'époque.
Oui. Les Chaldéens.
C'est
bah oui.
C'est toujours le même problème, c'est pareil pour les Philistins.
C'est comme les Philistins, oui, c'est ça, oui. C'est une désignation que l'on a fait de. Bon, il y a aussi les Cachites. Les Cachites, c'est une population. Alors, bon, est-ce que finalement, entre Cachites, Kasdim, Cachites, Cachites. Bon, c'est aussi. Ça, c'est pareil. Les auteurs bibliques avaient à leur disposition des sources de l'endroit, de Mésopotamie, quoi, finalement. Et ça a été transcrit d'une manière plus ou moins heureuse en hébreu, quoi. Bon, il y a aussi les problèmes de critique ensuite textuelle. Est-ce que les scribes ensuite n'ont pas kashim, ils n'ont pas transformé en kashdim parce qu'ils étaient plus familiers avec ce terme, quoi. Non, je ne peux pas dire que c'est un anachronisme. Pas un anachronisme. Ur kashdim, peut-être Ur kashim, c'est l'époque où justement Ur III s'est effondré. Ur III est contemporaine de la 12e dynastie. Et là, donc, automatiquement, il y a un appel d'air de bédouins qui s'installe dans la région, les Cachites, ce qu'on appelle les Cachites dans les sources officielles de la syriologie actuelle, quoi. Hein, mais ça peut aussi se lire Cachdim. Hein, ça, c'est... Autre question ? Non, absolument pas. Là, c'est des siècles après, quoi. Non, les Philistins, en tant qu'entité, ont disparu au moment des conquêtes assyriennes. Et ensuite, les Perses, c'est pareil, il y a eu des déportations aussi en ce qui les concernait. Il y a eu l'apport d'autres populations. Mais c'est vrai que toutes ces régions ont vu aussi, à l'époque perse, à la fin de l'époque assyrienne déjà, et à l'époque perse, une arrivée massive de Grecs venus du continent, de la Grèce classique, comme en Égypte d'ailleurs. Hein, l'Égypte a vu. Ils venaient soit comme mercenaires pour combattre dans les armées locales, soit comme marchands. Les Grecs aussi étaient des marchands, quoi. Hein. Marchands, artisans, forgerons, tout ça, quoi. Hein. Et alors, donc, bien sûr, quand la Grèce a été vaincue, et qu'Alexandre le Grand est arrivé dans la région, lui venait de Grèce, alors automatiquement, il y a eu un appel d'air formidable pour l'arrivée de Grecs. Et à l'époque du Nouveau Testament, la population de Judée, la population d'Israël, était à peu près composée, je dirais, 40% de Grecs et 60% de Juifs. C'était presque, même la proportion peut être même un petit peu plus forte, tant et si bien que c'est ce qui a provoqué la grande révolte, parce que les Romains, selon le vieil adage divisé pour régner, de tous les impérialistes, ont utilisé les éléments grecs avec lesquels ils étaient beaucoup plus proches pour faire pièce aux Juifs. Hein. Et par exemple, Césarée, qui était la capitale de l'époque de la Judée, avait une population de 50% de Juifs, 50% de Grecs. Et c'est là qu'a éclaté la grande révolte. Il y avait des troubles qui éclataient constamment entre Juifs et Grecs. Surtout les gouverneurs de la dernière période, ça veut dire après 44, après la mort d'Agrippa Ier, tous les gouverneurs romains étaient des Grecs. Alors ils favorisaient systématiquement leur co-religionnaire contre les Juifs. Et le dernier dont trouvons Félix, par exemple, et Festus étaient des épouvantables bons hommes à ce niveau-là, mais Florus était le pire de tous. Et là, donc, il a tellement été injuste par rapport aux Juifs que les Juifs se sont finis par se révolter. Ça a été le début de la Grande Révolte, 66. Bon.